débat.
Le débat نقاشنا اليوم حول la cybersécurité أو الحماية السيبرنية أو بالأحرى حتى كمش نحكيه على الحماية مش ناخذ المشكلة الكبيرة اللي هي المخاطر السيبرنية المعرضة لها المؤسسات حول العالم ديزاتاك بشكل كبير منذ سنوات تقريبا سنويا العديد متاع ليزاتاك قاعدة تزيد وحتى ليزافيخ تكبر نحكيه على مؤسسات كبرى حول العالم مش نحكيه على العالم مش نحكيه على تونس مع ضيوفنا نطلقوا معه هو باسكال نودان ريسبونساب كوميرسيال بي تو بي نور ويست اي سنتر افريك مرحبا بك bienvenue parmi nous Saïd Nizar Bouassida responsable exclusif Networks Tunisie مرحبا بك نزار خلينا نبدا معك نزار ساعه قبل كل شيء وقت نحكيوا على لا سيبر سيكوريتي او المخاطر السيبرنيه اجمالا خلينا نفسر الناس شنو اللي مقصود بالضبط
Merci pour votre invitation. Déjà, quand on parle de tout ce qui est sécurité dans le monde informatique, c'est qu'on ne peut pas cacher qu'aujourd'hui, c'est dans le monde, on va dire, numérique, il y a toute une transformation qui est en train de se passer. Et pour faire cette transformation, c'est qu'on va ouvrir en fait les différentes portes pour donner accessibilité aux données de l'entreprise ou bien de la société ou n'importe quelle institution pour accéder de l'extérieur. C'est-à-dire, on va transformer l'information de l'intérieur pour l'exposer à l'extérieur. Et là, et justement, et c'est ça l'inconvénient, on va dire, ou bien c'est pas l'inconvénient, mais c'est, on va dire, une petite litige
sur la limite.
La limite, ouais. Voilà, de la digitalisation, c'est on va s'ouvrir un monde qui est ouvert. Et là, ça, on va ouvrir les portes pour les attaques. Voilà. La cybersécurité, c'est se protéger face à cette... C'est toute une stratégie. Il faut se protéger, il faut commencer par se protéger déjà à l'interne, parce qu'on ne peut pas dire c'est que on est face des attaques, et réellement, derrière, on n'est pas protégé à l'interne. Parce que un utilisateur interne, c'est le premier attaquant. Ça, il faut être conscient. Du coup, dans le système, on va dire, que ce soit entreprise ou bien à l'échelle internationale, les institutions ou le ministre d'État, la première chose, à mon avis, ça reste un avis personnel, c'est que tout le monde doit être conscient, du secrétaire jusqu'à le directeur général. Voilà, donc ça, c'est un premier volet. Après, ça arrive les différentes sociétés qui donnent et qui offrent les solutions aujourd'hui connues mondialement pour se protéger depuis l'extérieur. Et, tu sais, c'est un monde qui avance rapidement, c'est-à-dire ça s'évolue de jour en jour sur le monde entier. Voilà.
Monsieur Noudin, comme le disait d'ailleurs Nizar Bouassida, chaque interconnexion et chaque point de collecte, de stockage ou de traitement de données, il représente une passerelle potentielle vers des cyberattaques. Alors la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est dans l'obligation de se protéger ?
J'ai envie de dire, oui, c'est une obligation. Alors, elle n'est peut-être pas forcément toujours légale. Donc, c'est pas le législateur qui l'impose. Je ne connais pas forcément la législation en Tunisie. Mais j'ai envie de dire, j'ai envie presque de parler de bon sens en disant, oui, si vous voulez que votre entreprise ou que votre administration perdure dans le temps, il faut se protéger.
On se dit toujours que c'est loin de nous, ça ne va pas nous toucher. C'est pour ça qu'on n'accorde pas assez d'importance, généralement.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, j'ai envie de dire, il y a deux types de clients. Il y a les clients qui se sont fait hacker, et puis il y a ceux qui ne se sont pas fait hacker, mais en fait, ils sont en train peut-être de se faire hacker. Parce que,
sans le savoir.
Ils ne le savent pas. Quoi. Mm-hmm. Donc, la problématique, elle est là. Comme disait Nizar, il y a un réseau informatique, c'est une multitude, on va dire, d'applications, de composants, que ce soit du réseau et autres. Et tout ça, il y a toute une interopérabilité entre ces systèmes. Et il existe forcément des failles de sécurité lors du développement. Ça peut être un développement logiciel, mais un développement matériel. Et aujourd'hui, sur la planète, vous avez des groupes qui passent leur temps à chercher ces failles. Et une fois qu'ils les ont trouvées, ils les exploitent pour mieux, on va dire, arriver, pénétrer chez les clients, d'accord, et en fonction du client, leur soutirer plus ou moins d'argent. Mmh. Ça, c'est clair. Et j'ajouterais à ce que disait Nizar tout à l'heure, on pourrait largement baisser les attaques, enfin, une grande partie des attaques dans les entreprises, en sensibilisant les utilisateurs. Parce que, comme il le disait si bien, les utilisateurs, entre guillemets, ce sont les, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, pas les premiers hackers, mais presque, parce qu'effectivement, près de 90% des attaques qui sont lancées en entreprise sont dues
à des fautes en interne.
C'est-à-dire une personne qui n'a, malheureusement, qui n'a pas été formée, sensibilisée à ça, qui a cliqué sur un lien. Et ce lien était malveillant, et comme on lui a, à un moment donné, on lui a mis un PC dans les mains, on lui a dit, tiens, ça, c'est ton, t'as plus de machine à écrire, t'as un PC, ça a évolué, et puis l'Internet est arrivé, aujourd'hui on reçoit beaucoup d'informations, et c'est vrai que dans un flux d'informations, je vais prendre un exemple, vous êtes un DRH, vous passez une candidature, vous demandez, vous embauchez quelqu'un, vous recevez des centaines de CV et des centaines de PDF.
On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver.
Il y a un moment, vous cliquez sur le PDF et le PDF, c'est un malware. Donc, oui, il faut sensibiliser tout le monde, comme il disait, aussi bien donc, toute personne utilisant l'informatique, on va dire, dans l'entreprise, du simple employé de bureau jusqu'au directeur général. Et ça s'est accentué encore plus. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, avec le Covid. Pourquoi ? Parce qu'on a vu avec le Covid, c'est que les gens, pour la plupart, on leur a dit, essayez de travailler chez vous. Mais les entreprises n'étaient pas, on va dire, en capacité à dire, attendez, moi, je n'ai pas au bureau parce que vous allez attraper le Covid, travaillez chez vous avec votre PC, parce que, mais par contre, je ne peux pas vous acheter un PC, parce que je n'ai pas les capacités d'acheter... des centaines de laptops.
Donc travaillez avec votre PC.
Travaillez avec vos PC, ouais. C'est ce qu'on fait la plupart des gens. D'accord ? Bon, il y a des entreprises où les commerciaux ou certaines catégories de population avaient déjà des laptops. Donc ça s'est fait naturellement. Mais ceux qui n'avaient. Et là, on leur a dit, on va vous ouvrir un accès VPN peut-être, en se disant, comme ça, vous allez pouvoir arriver dans l'entreprise pour pouvoir continuer à travailler.
Donc c'est des laptops qui ne sont pas sécurisés.
Ah ben non, parce qu'en vrai. On a travaillé dans l'urgence, alors c'est pas un reproche, mais simplement dans l'urgence. Après, vous pouvez faire signer tous les bons que vous voulez en disant est-ce que vous avez un antivirus, est-ce que vous avez ceci. Oui, si vous voulez, mais est-ce qu'il est à jour? Est-ce que toutes les failles de sécurité de votre système d'exploitation sont corrigées? Parce qu'il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, on a ouvert, on va dire, encore plus, encore plus d'un coup de failles. Et forcément, les attaquants aujourd'hui se sont engouffrés dans cette faille parce qu'on sait qu'il y a énormément d'utilisateurs qui travaillent de chez eux aujourd'hui avec leur propre matériel.
Être confronté aujourd'hui beaucoup plus qu'avant à cause du travail à distance, de la généralisation du travail à distance dans le monde, ça devrait être une raison pour imposer, entre guillemets, si j'ose dire, la sécurité ou la protection contre ces attaques. Et là, je reviens à votre première réflexion lors de votre réponse, quand vous avez dit, je ne sais pas, si en Tunisie, ou le cadre légal en Tunisie, qu'est-ce qu'il dit ? Nizar, je vais revenir avec, parce que d'après mes informations, en Tunisie, c'est obligatoire, légalement, pour les entreprises, bien sûr, je parle, d'être sécurisé, d'être protégé contre ces cyberattaques. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ?
Obligatoire, c'est entre parenthèses. Ouais. Parce qu'il n'y a pas
aujourd'hui
des
sanctions.
Il n'y a pas des lois qui imposent ça sur le monde privé. Sur les entreprises publiques, réellement, j'étais au courant de certaines lois qui ont été faits avec plusieurs ministres qui sont passés durant 10 ans. Donc, il y avait certaines lois, il y avait même un parcours, on va dire, pas un parcours, mais réellement toute une réflexion qui a été notée avec des gens compétents du domaine. Mais après, je pense, dès que le gouvernement il est parti, donc c'est parti dans l'air. Hein. Mais de toute façon, je vois, nous, en tant que... on a une vision ce qui se passe à l'extérieur, notamment sur le Nord-Afrique, c'est-à-dire la loi, et c'est par obligation, il donne des chemins pour la cybersécurité et comment se protéger pour l'État. Les différents services d'État qu'on offre aujourd'hui. Voilà. Donc là, aujourd'hui, sur la Tunisie, les différents, on va dire, acteurs de chaque ministre ou bien tout ça, ils essaient de faire, mais ceci dit, Il n'y a pas des lois qui imposent. Mmh. Il y a bon, pas, voilà.
On va revenir juste après une courte page de peu pour en parler avec vous, Nizar Bouassida, aussi Pascal Naudin. Est-ce qu'il faut vraiment obliger les entreprises à le faire ? La raison dit que c'est tout à fait normal d'être protégé ou d'essayer de se protéger. Mais réellement aussi, il y a une possibilité d'obligation quand ça peut entraver le travail des entreprises ou l'activité de l'entreprise, quand il n'y a pas une possibilité d'interagir avec d'autres entreprises, avec d'autres acteurs économiques qui ne vont pas accepter de travailler avec vous en tant qu'entreprise, en tant qu'acteur économique, quand vous n'êtes pas protégé. Donc ça, on va en parler dans quelques minutes, juste après une courte page de pub.
Le débat.
مواصلين نقاشنا في لو ديبار على ايكوماك. نفكركم اللي نحن مباشرة في الحمامات موجودين في إطار تكنولوجي بحت، نحكيو في الفوروم دي اس اي من الحمامات، والحديث نتاعنا في النقاش نتاعنا اليوم هو حول لا سيبر سيكوريتي والأهمية نتاع الحماية السيبرنية. حديثنا مع ضيوفنا الزوز باسكال نودان ريسبونسابل كوميرسيال بي تو بي نور ويست اي سنتر افريك، ونزار بوعسيدة ريسبونسابل اكسكلوزيف نتوركس تونيزي. مرحبا بكم مرة أخرى، بيانفوني parmi nous. Je me posais la question par rapport à l'obligation, au fait d'être obligé, d'être sécurisé ou protégé, ou d'être cyber-protégé. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'obligation, même dans le monde, à travers le monde, il n'y a pas de pays qui oblige les entreprises. Est-ce que c'est vrai ou pas
pour commencer aussi. Je pense qu'il y a des pays qui obligent. Il y a même des pays qui obligent. Je pense la France, mm-hmm. qui oblige à déclarer un incident de cybersécurité quand vous êtes une entreprise. C'est d'autant plus vrai quand vous êtes ce qu'on appelle un OIV, un opérateur d'intérêt vital, c'est-à-dire un OIV, c'est un producteur d'électricité, un opérateur téléphonique, une banque, des gens, enfin des entreprises qui, lorsqu'elles sont arrêtées, peuvent mettre en péril le pays. D'accord. C'est vrai que si je coupe... Je ne leur souhaite pas, mais je coupe tous les opérateurs téléphoniques de Tunisie, il ne se passe plus rien. Mmh. Vous ne pouvez plus téléphoner, vous ne faites plus de transfert bancaire, il ne se passe plus rien. Donc le pays est au chaos. Si on coupe l'électricité en Tunisie ou dans n'importe quel pays du monde, c'est le chaos total. Mmh. Donc là, oui, il y a des obligations de déclarer les incidents de sécurité. Maintenant, dans le secteur privé, quand vous avez des multinationales qui veulent passer des marchés avec des sous-traitants
Exactement.
Ou faire des accords, il y a tout un cahier des charges, tout un processus, et la cybersécurité est rentrée dans ce processus.
Donc on peut dire que les entreprises peuvent imposer des normes et des standards bien définis à leurs clients, aux fournisseurs ou quoi que ce soit.
Ça existe aujourd'hui sur le marché, hein. Mm-hmm. Ça existe.
On parle du marché international ou
tunisien. On parle tunisien. Ouais. Il y a certaines grandes sociétés, tout ça. Pour collaborer à certains partenaires, on va dire prestataires de services, il existe minimum, on va dire, deux normes. Mm-hmm. Les normes, ils peuvent être conformité des données, la sécurité, comment vous donnez accès. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont collaborer, ils vont donner des accès. Voilà, donc c'est normal que la société avec qui ils vont collaborer, ils soient sûrs que... déjà, ils respectent un minimum de notions de sécurité des données et d'informations.
Alors, vous avez cité le terme un minimum de sécurité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut être totalement sécurisé ou pas contre les cyberattaques, tout en sachant que j'ai croisé une étude de Train de Micro qui dit que 27,8 milliards de cybermenaces ont été empêchées pendant les 6 premiers mois de 2020, le premier semestre de 2009. On parle de milliards, des dizaines de milliards de cyberattaques. Et ce n'est pas la totalité, hein, ce n'est pas le nombre exactement. Donc, est-ce qu'on peut réellement être totalement protégé contre ça ?
J'ai envie de dire à l'instant T, oui. Mais à T plus 1, non. Pourquoi ? Parce que à l'instant T, dans le monde informatique, vous allez, comme je vous expliquais, vous avez une multitude de composants mm-hmm. qui composent votre infrastructure, et vous allez chercher chez vos éditeurs, chez vos constructeurs, les dernières, ce qu'on appelle les dernières mises à jour, qui vont, pour la plupart, corriger des failles de sécurité. Mais on sait très bien qu'à un moment, en T plus 1, mm-hmm. ces failles vont... D'autres failles vont être découvertes par des chercheurs, des hackers, et qui ne seront forcément pas visibles. Donc, À partir du moment où vous mettez à jour, c'est pour ça qu'il est très important de mettre à jour tous les composants de votre parc pour on va dire, réduire la ce qu'on appelle réduire la surface d'attaque. Mm-hmm. C'est-à-dire que moins vous avez de failles dans votre réseau, plus ça sera compliqué déjà pour les attaquants de pénétrer dans votre système d'information. Si en plus vous élevez ensuite le niveau de sécurité et comme je dis en partant de la sensibilisation des utilisateurs et en mettant des outils qui vont renforcer la sécurité périphérique, vous allez forcément tendre, je dirais, vers la sécurité maximum. Mais c'est un véritable travail quotidien, parce que les RSSI que l'on connaît sont toujours sur le qui-vive. C'est-à-dire que chaque jour, ils remettent, on va dire, l'ouvrage sur la table en disant qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on a découvert comme faille et qu'est-ce que je dois remettre en place dans mon système d'information pour encore l'améliorer.
Donc réellement, on ne peut pas parler de sécurité totale, on peut parler d'une sécurité maximale ou optimale.
Maximale, oui.
Et ce n'est pas possible d'être totalement protégé dans ce monde technologique qui évolue tellement vite et rapidement que ce serait quasi impossible.
Non, c'est effectivement ça. Il y a toujours un risque, c'est-à-dire même si on est à jour, on a tout fait, on a mis les meilleures solutions, il y a 10 personnes qui travaillent sur la sécurité, mais il y a toujours un risque. On n'est jamais 100% protégé, ça n'existe pas. Mm-hmm. Parce que le monde, il évolue très vite. Mm-hmm. Et il y a toujours, c'est-à-dire il y a toujours une petite fenêtre qui laisse 2 ou 3% des risques qui existent toujours. Mm-hmm. Ça, c'est par définition le monde de sécurité. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être à l'aise et il faut se sentir toujours en position de... Pas en faiblesse, mais en danger, on va dire. Mm-hmm. Bon. C'est un sentiment que doivent avoir les responsables de sécurité aujourd'hui. Et surtout que, après les crises sanitaires qu'on a eues au monde entier, le monde il est de plus en plus rapide avec cette digitalisation des données. Donc, les gens, comme nous, par exemple, on travaille dans le monde sécurité, il y a d'autres gens qui travaillent en cyberattaque. Donc, il y a deux secteurs en conflit.
Qui évoluent
parallèlement.
Mais surtout, l'un
plus rapidement que l'autre.
Plus rapidement que l'autre,
parce que la cyberattaque.
Bah, les attaquants, forcément, eux, je fais une analogie. Les gendarmes et les voleurs.
Ouais.
Nous, on est plutôt gendarmes et les voleurs ont toujours un coup d'avance.
D'accord.
Et nous, on a quand même des systèmes qui permettent de temps en temps de prévoir les coups qu'ils vont avoir d'avance. Mm-hmm. Mais je vais vous citer un exemple. Tout simple, vous avez beau avoir le meilleur système de cybersécurité et de protection. Il n'y a pas très très longtemps, une entreprise très connue qui s'appelle SolarWinds, d'accord, ouais, a été malheureusement, et je dis malheureusement parce que ça peut arriver à n'importe qui, même au meilleur, donc malheureusement, ils ont été victimes d'une cyberattaque. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire très simple, des attaquants ont injecté du code dans leur logiciel. Mmh. Et les clients, en toute bonne foi, ont téléchargé ces logiciels. Et ils ont attendu tout simplement le moment propice pour lancer les attaques. Mmh. Et ça, c'est imparable. C'est imparable parce que, en fait, vous avez un programme dormant qui n'a jamais été exécuté. Donc, s'il n'a jamais été exécuté, il n'est pas visible. Mmh. On ne peut pas l'analyser. Et quand il surgit à l'instant T, c'est trop tard. Mmh. Donc, vous voyez, la cybersécurité, c'est très compliqué. D'accord ? Comme disait Nizar, on ne s'endort pas sur ses deux lauriers, on doit être toujours sur le qui-vive.
Vigilant.
On doit être toujours très vigilant, parce que le risque,
Élevé.
Le risque est trop élevé.
Alors, on parle de tout à l'heure, on parlait de la transformation digitale, des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'IoT, etc. Par rapport à la aux cyberattaques. Quelles sont les technologies, si j'ose dire, de cyberattaque? On parle, les plus populaires ou les plus connues, peut-être c'est le phishing, le phishing, je sais quoi. Mais réellement, quelles sont les plus dangereuses, les techniques les plus dangereuses? Et pourquoi on adopte ce genre d'attaque ou on fait ce genre d'attaque? C'est quoi l'objectif exactement?
Alors, je vais répondre aux deux types de menaces qui ont, on va dire, le vent en poupe actuellement. Mmh. La première, c'est le ransomware. C'est un programme qui va être lancé, on va dire, parce qu'un utilisateur, dans 90% des cas, a cliqué sur un lien et il a lancé un programme qui va chiffrer toutes vos données. Mm-hmm. Et Une fois que les données sont chiffrées, le hacker vous appelle gentiment, vous envoie un message, il dit voilà, donne-moi 10 bitcoins en fonction. Alors, parce que le hacker aura regardé qui l'a hacké. Si c'est l'épicier du coin, il ne va même pas s'en occuper. Si c'est par exemple la grosse multinationale ou un hôpital ou autre, là il va dire donne-moi 2, 3, 10, 20 bitcoins en fonction de la capacité que vous avez à payer.
D'accord.
Donc ça c'est les ransomware. Les deuxièmes attaques que l'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les attaques fileless, c'est-à-dire sans fichiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas détectés par un antivirus classique, d'accord. C'est pas un fichier, c'est simplement comme si vous aviez quelqu'un de votre entreprise, mais qui n'est pas de votre entreprise, qui est à l'extérieur, et qui a les droits administrateurs et qui fait ce qu'il veut. D'accord ? Donc il est rentré chez vous, comme si c'était le patron, et il fait ce qu'il veut. Mmh. Et là, il peut aussi chiffrer, il peut vous voler vos données, parce que c'est le deuxième aspect, c'est il copie vos données dans un lieu sécurisé pour lui.
D'accord.
Ensuite, soit il détruit, soit il chiffre les données chez le client, et il redemande forcément une rançon. Mais il possède toujours aussi en otage vos données. Mmh. Donc ça, c'est le nouvel petit data. Ça, par contre, c'est très, très ciblé. Là, on attaque essentiellement des grands comptes, d'accord, des comptes qui peuvent vraiment payer. Quoi.
Mm-hmm.
D'accord. L'autre question, c'était...
Il y a aussi l'attaque, c'est exactement ça, mais il y a aussi un autre type d'attaque, et là, je veux citer précisément l'affaire Pegasus, par exemple, et là, on ne parle pas de rançon ni rien du tout, c'est des informations, c'est des données qu'on cherche à avoir.
Alors, Pegasus, pour moi, enfin... Je ne veux pas trop aller dessus parce que pour moi, c'est pas une. Enfin, oui, on peut l'assimiler à une cyberattaque.
C'est des entreprises spécialisées en ça.
Oui, mais moi, pour moi, c'est plus. Ça ressemble plus à de l'espionnage. Maintenant, voilà, c'est. Mais
c'est
oui,
pas directement lié.
Mais on pourrait très bien, effectivement, le considérer comme une cyberattaque pour récupérer des informations sur une liste de personnalités. Mm-hmm. Mais je ne le vois pas, moi, personnellement, je ne le vois
comme
pas.
Cyberattaque,
comme une cyberattaque.
Mm-hmm. Technique. C'est
de l'espionnage. Hein.
C'est
de l'espionnage.
Non.
Ouais. Quand on parle d'espionnage, on parle de l'attaque d'informations personnelles ou de données.
Oui, mais le but n'est pas le même.
C'est
oui, exactement.
Le but n'est pas le même. Le côté espionnage, on est dans la géopolitique, d'accord.
Ouais.
Le côté cyber, on est dans le business.
C'est financier.
Les gens qui vous demandent 10 bitcoins, c'est vraiment pour s'enrichir.
Mm-hmm.
Les données. Que vous soyez un homme politique ou une grosse entreprise.
C'est l'argent, c'est clair.
C'est l'argent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre débat. Quoi. On n'est pas dans des groupes avec des groupes de, j'ai envie de dire, de hackers, dans ce cas-là, qui seraient des militants ou des activistes.
Mm-hmm.
D'accord. Là, la cyberattaque, c'est clairement une industrie.
Voilà.
Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez louer des services. D'accord, des services de cyberattaquants sur le web, c'est-à-dire que vous dites...
C'est des entreprises qui travaillent, dont la spécialité est la cyberattaque.
Si demain vous avez envie d'attaquer une entreprise, vous contactez une entreprise de cyber, enfin de cyberattaquants, et ils vont dire, voilà, pour 5 000 $, moi je vous donne les clés pour attaquer l'entreprise.
Mais vous parlez de l'entreprise de cyberattaque, voilà, justement, comme si c'était un business normal,
un business
traditionnel, des entreprises légales qui existent. Est-ce que c'est normal, Nizar?
Ben, normal ou pas, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, il y a le voleur, il y a la police. Aujourd'hui, dans le monde, il faut prendre ça en fait sur un contexte économique mondial. Et si on cherche, par exemple,
on normalise un petit peu la criminalité. Donc, c'est des entreprises criminelles.
Il faut chercher à quel territoire il existe.
Mm-hmm.
Qui vend les solutions de... Mm-hmm. C'est tout un contexte mondial. Hein,
mm-hmm.
Parce que aujourd'hui, qui sont sur les pays qui font de la cybersécurité. Nous, on est des consommateurs. Et qui sont les autres qui font des cyberattaques? Et c'est ça, les sociétés qui existent aujourd'hui pour les cyberattaques, il y a quelques pays qui existent dans le monde. Voilà. Mm-hmm. Il y a d'autres qui font moins, mais en tout cas, il y a des pays qui sont bien connus, qui existent, ces sociétés, légalement ou pas légales. En tout cas, chez eux, c'est légal.
En tout cas, ce qu'ils font, c'est pas légal.
Mais là, on est entièrement d'accord.
Ça, c'est pour nous, ouais.
Alors, Je voudrais juste faire un petit bémol. Quand je parle de société, c'est pas des sociétés, il ne faut pas le prendre en tant que tel. Ce sont des groupes d'attaquants qui peuvent se faire et se défaire. Et c'est là où c'est la complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que nous sommes trois cyber-attaquants. Mm-hmm. On va créer notre groupe, on va attaquer un client. D'accord. Et après, on peut se dissocier complètement et puis je peux m'associer avec quelqu'un d'autre pour faire une autre opération. Donc, c'est d'autant plus compliqué à arrêter parce que les groupes sont très volatiles. Alors, il y a toujours des noyaux.
Mais ils sont connus. Je peux m'adresser à un groupe pour faire une opération.
Connu. Il a un nom. Mais derrière, vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas s'il est en Tunisie, en France, en Chine,
au Japon. Ce n'est pas une institution existante.
Ah mais celui qui a attaqué, oui, on le connaît, mais le groupe, il se donne des noms. Mm-hmm. Mais les trouver, c'est très... Alors, on en trouve. Interpol travaille dessus. Il y a d'autres organismes qui travaillent à démanteler ce genre de groupe. Mais c'est très, très compliqué du fait, de l'anonymat de ces personnes. C'est très, très compliqué.
En attendant ce qui va se passer dans le futur, quel type de cyberattaques vont avoir lieu? Quelles technologies aussi d'attaque? Je vous remercie énormément pour votre présence, Pascal Naudin, responsable commercial B2B Nord-Ouest et Centrafrique, et Nizar Bouassida, responsable exclusif Networks Tunisie. Merci pour votre présence. Shukran likoum entouma wa qadou maana. Raja'in moubacharatan ba'd l'akhbar.